scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les voies du scénarium. Seb au micro, j'espère qu'on va passer ensemble un bon moment au programme de ce soir. Un petit truc expérimental et aussi la deuxième partie d'une interview commencée déjà il y a 15 jours. Pour la partie expérimentale, c'est assez simple. C'est une petite expérience que j'ai menée lorsque j'ai parcouru l'Angers Geek Fest, où j'ai décidé de créer un cadavre exquis de jeu de rôle. Le principe était simple. Je commençais, j'élaborais un très court synopsis et les gens que j'allais interviewer complétaient l'histoire en se mettant dans la peau du personnage principal. L'idée était la suivante, vous rentriez dans le festival Angers Geek Fest et vous rendriez compte que ce lieu n'était pas seulement une convention mais aussi un lieu où tous les univers geeks se retrouvaient et prenaient vie. Et vous allez voir que de ce simple postulat, on est parti très très loin. Alors, c'est assez inégal, chacun y allant de son imagination, de sa volonté, de sa performance vocale, mais en même temps l'expérience est très intéressante, très ludique. J'ai essayé de faire un montage qui soit pratique et facile à écouter en mettant un petit interlude entre chaque participant. C'est une expérience que j'ai pu mener grâce à Angers Geek Fest, grâce à Destination Angers et bien entendu grâce aux organisateurs Leno qui s'occupe de l'Angers Geek Fest. Je vous laisse tout de suite avec cette expérience ludique qui j'espère vous plaira.
Tu viens d'arriver à Angers Geek Fest et tu te rends compte qu'à l'intérieur ce n'est pas juste un salon avec des invités, avec des exposants, mais c'est vraiment un univers où toute la culture geek se mélange, mais pour de vrai. et qui es-tu ?
Eh bien, je croyais être une personne normale, mais là que je rentre, je vois que il y a une énergie qui crépite dans mes mains et que j'ai l'air d'avoir des pouvoirs magiques. Mais je ne sais pas trop lesquels, je ne suis pas sûre de les maîtriser. Alors je commence par observer les gens autour de moi. Je regarde, est-ce qu'ils ont l'air, eux, d'avoir également des pouvoirs ? Et oui, si oui, est-ce qu'ils ont l'air de les maîtriser et de trouver ça normal ? Ou est-ce qu'ils sont, comme moi, un peu surpris ? Surtout, je fais bien attention à ne pas montrer, en tout cas, que je ne maîtrise pas. Je préfère maintenir le doute au cas où je serai la seule à ne pas savoir ce que je fais.
A few moments later.
Alors, avec cette magie, je sens que j'ai quelque chose au bout des doigts, mais que cette magie, elle n'est pas encore pleinement réveillée. J'ai vu qu'il y avait pas mal de visiteurs qui avaient des espèces de breuvages, des breuvages marrons, qui sollicitent le corps et qui te réveillent. Certains parlent de café, mais je pense qu'il n'y a pas que du café dans ce breuvage. Et donc, j'essaye de trouver l'endroit où est procuré cet élixir.
A few moments later.
Et tu t'es mis en tête d'essayer de trouver où se fait ce café. Qu'est-ce que tu fais ensuite ?
Je commence par en goûter peut-être.
Qu'est-ce que ça te fait ?
Et qu'est-ce que ça te fait d'en goûter ?
C'est un produit que j'aime bien. Même si je découvre, j'adore. Après le... Quel est le pouvoir de la... Quel est le lien entre la magie et le fait que je découvre du café ? J'ai peut-être envie de me faire un arbre à café, là, tout de suite. Me faire sortir un arbre à café et voir, parce qu'on veut savoir d'où ça vient, autant aller directement sur la plante, en fait.
Ok. Là, je vais t'inviter à décrire en fait la magie que tu génères et comment sort cet arbre à café là au milieu de tout le monde au final.
On va partir d'une magie un peu druidique, à base d'appels de la terre, de la nature. Et là, sur ce sol un peu petite tomate, ça va commencer à se craqueler et des racines vont commencer à sortir. On va voir un beau tronc qui se crée. J'invente un nouveau caféier, hein, je le précise.
Pas de problème, c'est la magie, tout est possible ici.
Je suis plutôt dans du café type séquoia quand même. C'est très fort. Et on va avoir un beau tronc qui se crée avec de belles branches et des très 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 gros grains de café. Type noix de coco. Ça se croque pas sous la dent, hein, mais comme les grains de café.
Tu veux compléter encore un petit peu ou...
Après j'ai mon beau séquoia qui a un peu crevé le plafond du palais des expos, qui a un peu bien pété le parquet, enfin le parquet, le carrelage, pardon. Et je pense qu'on est plutôt bien avec ça, un bel arbre avec des belles feuilles, des belles branches et des beaux grains de café.
A few moments later.
Alors, tu viens de faire pousser un caféier taille gigantesque, séquoia, qui a crevé le plafond du parc des expositions. Les grains de café font la taille d'une noix de coco. Et ça a fait quand même beaucoup de bruit et les gens commencent à s'agglutiner autour de cette structure végétale complètement improbable. Qu'est-ce que tu fais ?
En foi de magicienne, c'était bien la première fois que je me rendais compte que ma magie avait autant d'impact aussi vite. Les grains de café étaient réellement immenses. Je doutais d'ailleurs qu'on puisse trouver de quoi les récolter facilement, les moudre et en faire une tasse, à condition d'avoir une tasse suffisamment grande pour que ça fonctionne. Autour de moi, ça commençait d'ailleurs à s'agiter parce que les gens venaient de voir. Et il y en a qui étaient plus ou moins surpris. D'autres qui trouvaient ça tout à fait naturel que dans cet espace où les univers se mélangeaient, on trouve des choses qui paraissent un peu bizarres. Mais à ce moment-là, un barbu s'approcha de moi. Il avait une sorte de casque bizarre autour des oreilles et il tenait à la main quelque chose que je pris tout d'abord pour une arme. Je me raidis et je commençais à sentir mes doigts pétiller avec quelques éclairs qui sortaient. Mais je me maîtrisais en me disant « l'attaque n'est pas toujours la meilleure défense ». Je dis « bonjour monsieur, que direz-vous ? Que désirez-vous ?» Il me dit... votre café, vous le commercialisez à combien ? Combien ? De quoi parlait-il ? Ah oui, c'est vrai que dans ce monde-là, il y avait aussi de l'argent qui servait aux transactions, comme c'était compliqué leur machin. Eh bien écoutez, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, donc je n'ai pas encore vu tellement le loisir, mais voulez-vous être mon, comment dites-vous, manager, enfin pour faire la publicité et puis voir comment ça pourrait se, la foule s'agglutinait de plus en plus, délaissant les karaokés, les déguisements, les cosplays et tout ça. Aux grandes dames des organisateurs qui ne savaient plus comment rattraper leurs clients, y compris des autres stands qui délaissaient leurs propres stands pour s'approcher de moi. Comment avez-vous fait, me demandait-il. Mais je n'en sais rien, j'ai juste utilisé un peu de magie. Si ça se trouve, c'est simplement la convergence entre ceci et ce monde qui a produit cette merveille. Excusez-moi, il faut que je m'absente un instant. Monsieur, mon nouveau manager, voulez-vous vous occuper de canaliser cette foule ? Je reviens dans une seconde. Et je m'éclipsais.
A few moments later.
Quand tu veux, alors.
Bah écoute, c'est alors moi en tant que je suis une sorcière, donc je suis assez puissante. Je vais aller voir les responsables de la Geekfest. Je vais essayer de les trouver dans leur bureau où ils sont. Ils sont peut-être à l'accueil. Je leur explique concrètement qu'il faut faire une cérémonie. J'en suis persuadé. Il faut faire une cérémonie autour de ce séquoia, parce que ces gros grains de café, ce sont pas des vrais grains de café. En fin de compte, ce sont pas des grains de café. Il y a de la magie à l'intérieur. Cette magie que j'ai été capable de créer finalement, en interagissant comme ça avec le lieu en question, avec toute cette manifestation de geeks. Et dans cette magie, je pense que cette magie va permettre de sauver l'humanité et surtout cette planète qui est malade. Voilà ce que je leur dis aux responsables de la Geekfest. Je dis qu'il faut faire un appel micro et que toutes les personnes qui sont actuellement à la Geekfest se retrouvent autour de ce grand séquoia, qui se tiennent la main et qu'on commence à chanter une belle chanson. Voilà.
Ok. Au départ, ils ont du mal à comprendre ce que toi tu veux, enfin pourquoi tu veux faire cette cérémonie-là. Quel est vraiment l'élément que tu leur donnes pour les convaincre ?
Alors je prends, parce que je suis une sorcière, j'ai un téléphone portable également, parce que je suis connecté, et je leur montre l'actualité. Je leur montre que la Terre est malade, il y a les dauphins qui sont pris dans les filets de pêche, il y a l'eau qui manque sur cette planète, il y a les déchets qui sont jetés dans les rivières, parce que je suis une sorte de sorcière de la nature, je suis une élémentaliste un petit peu, hein. Faut le reconnaître, je l'ai caché jusque là, mais je suis une élémentaliste. Je leur explique qu'il y a de la pollution dans l'air, qu'il y a uniquement les gens qui ont une âme d'enfant, comme les gens qui font la Geekfest, qui peuvent être capables de résoudre le problème de la Terre en faisant une grande cérémonie pour chasser de la planète toutes ces maux qui la rongent. Je me dévoile comme ça, je suis l'élémentaliste.
Et ils ont l'air complètement scotchés et ils sont... Il fait, ok, on va faire comme vous dites.
A few moments later.
Et là, j'ai un gros trou de mémoire. Je connaissais une chanson sur le thème de l'arbre et sur le thème de sauver le monde aussi, que mes enfants avaient chanté à la kermesse de l'école. Et gros trou de mémoire, gros blanc. Je me rappelle plus du tout. Bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait. Puis sauver le monde de quoi en fait? Je pense que, attends, on est à l'Angers Geek Fest, finalement on est venu là pour s'amuser. Je propose plutôt, je vais essayer mes nouveaux pouvoirs là, et de transformer cet arbre en grand terrain de jeu géant. Et on va faire comme dans un jeu vidéo, on va créer un jeu de plateforme en fait, sur les branches de l'arbre. Et j'ai ma baguette magique, qui n'était pas super magique, je la trempe dans le café, voir si ça permet d'augmenter ses pouvoirs. Et je visse des branches de l'arbre, et boum, elles se mettent à pousser, à s'agrandir, le diamètre des branches s'agrandit, et elles s'aplatissent un petit peu, et ça fait plein de petites plateformes, les unes réparties un petit peu aléatoirement autour des autres, jusqu'à la cime de l'arbre qu'on ne voit plus, et je saute sur la première branche. Hop. Et je saute sur une deuxième branche, une troisième, et puis là, tous les 10 000, 15 000 spectateurs de l'Angers Geek Fest me regardent et disent « Ouais, super, nous aussi !» Et eux aussi se mettent à sauter. Et on se met tous à sauter de branche en branche, comme ça. Alors, à un moment, dans l'arbre, il y a des petits trous là, qui ont dû être créés par, je sais pas, probablement par des oiseaux à une époque, peut-être des pivers, mais les trous se sont agrandis aussi avec la croissance magique de l'arbre. Et à un moment, j'ai une espèce de liane qui sort comme ça du trou de l'arbre et qui essaie de me choper. Hop, j'arrive à sauter au-dessus, mais on se rend compte qu'en fait, l'exercice devient dangereux.
Attends, je vais juste conclure, comme ça tu vas entendre. Et tu te rends compte que l'exercice devient dangereux. Et tu te rends compte aussi que le ciel a pris une teinte noire et que des éclairs commencent à zébrer le ciel.
A few moments later.
De cet arbre, de ces plateaux, aux tentacules fortes, au temps qui se périt, malheureusement. Dans les branches les plus hautes se situe un homme que certains connaissent, que d'autres ont entrevu ou que ces créatures, ils ont connu. Howard Philip Lovecraft, auteur d'horreur très connu du 19e siècle. Sur ses branches, dans son costume habituel, un livre à la main, grand ouvert. Ses yeux ne sont plus là, envahis de blanc. Il semble possédé, pris par quelque chose de plus grand que lui-même. Ses créations sont revenues le hanter, encore une fois. Ses tentacules, ses éléments de ses monstres les plus connus envahissent ce beau salon. Et ses propres participants, malgré leur magie, malgré leurs épées, leurs pouvoirs, ont du mal à régler avec ce concept plus grand que l'infinité. Mais tous unis, ensemble, avec des cultures bien vastes, bien différentes, nous pourrons peut-être un jour régler ce problème. Mais pour cela, il faudrait s'unir. Et face à l'infini, il n'y a que le nombre qui pourra régler ce problème.
A few moments later.
Eh bien, la sorcière réfléchissait à cette problématique du livre en haut de son arbre. Bon, après réflexion, finalement, elle se disait que elle avait conclu un espèce de business model avec ses partenariats, notamment des compagnies de cafetières. Voyant que ça marchait pas comme elle souhaitait, elle se dit « Oh là là, faut que je fasse quelque chose ». J'y vais aller voir plus près quand même ce qui se passe au niveau de cet arbre. Et là, elle s'est rendue compte que finalement, elle avait des concurrents qui étaient plutôt importants et avec des moyens conséquents. En fouillant bien sur les racines de l'arbre, enfin les racines plutôt le bas de l'arbre et puis un peu aux alentours, elle se rend compte qu'il y avait une projection holographique au-dessus de son arbre qui venait vanter les mérites d'un éditeur un peu crapuleux voulant vendre un certain nombre de livres d'un écrivain qui malheureusement est tombé maintenant un peu dans les zones d'ombre, qui n'y a plus de droit d'auteur, donc maintenant un peu de n'importe qui se sert de choses. Bon, voyant ce chose-là, elle s'est dit, oh là là, faut que je fasse quelque chose. Elle agit son petit doigt, elle secoue son bout du nez, et là, tchac, coupure de courant, tout s'éteint, plus de lumière dans le salon, plus de lumière en haut, le livre magique, enfin les livres qui étaient au-dessus de l'arbre, s'évaporent. Il ne reste plus que son arbre. Et là, toute contente, elle commence à rappeler ses sponsors. Elle dit, voilà, la marque de café, maintenant, sera bien en avant.
A few moments later.
Alors, le problème, c'est que du coup, il n'y a plus de courant, donc on ne voit plus rien. Donc, pour vendre son café, ça va être un petit peu compliqué. Donc, elle est à la recherche d'une source de lumière. Et en regardant un peu autour d'elle, elle voit quelque chose qui brille au loin. Alors, elle se rapproche comme ça, et puis elle voit des pièces qui brillent. Et elle voit un dragon dessus. Alors, elle lui demande au dragon si, éventuellement, il pourrait faire quelque chose pour l'aider. Et donc, le dragon lui fait, bon, ok, bah, si tu me trouves des torches, je vais te les allumer. On va faire ça. On va allumer tout le Geekfest. Et donc, du coup, maintenant, il faut qu'elle parte à la recherche de torches, quelque part, pour pouvoir avoir de la lumière et vendre son café.
www.radio-g.fr.
On se retrouve sur le 101.5 de Radio G après cette expérience cadavresque rôlistique. Qui j'espère vous aura fait plaisir. J'en profite pour remercier Morgan the Slug, Audrey Marin, Page, Paul, François, Marion, Nicolas et j'en oublie certainement qui ont participé à cette joyeuse expérience. On continue tout de suite avec la deuxième partie de l'interview commencée avec la loutre rôliste. Une interview où Christophe Desnouveaux, le patron des éditions La Loutre Rôliste, nous parlait d'incroyables détectives de monstres, mais aussi de ses autres productions ludiques, dont le très étrange Chronique d'un vampire millénaire. Je vous laisse en compagnie de cette interview. Bonjour à nouveau Christophe.
Bonjour
Loutre. On se retrouve à nouveau dans les voies du Scénarium pour parler des jeux qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer il y a 15 jours. On pourrait parler de Petit Pirate, un autre des jeux phares destinés aux enfants. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, Petit Pirate, un jeu à partir de 6 ans, maîtrisable à partir de 10 ans, où en fait, qu'est-ce qu'on va incarner ? On va incarner des petits pirates. Ça se passe en fait sur les eaux de la Grande Dame Bleue, où il y a 8 régions. 8 régions avec des îles toutes différentes, des climats différents, des dangers différents. Voilà, il y a tout un monde déjà là. Et donc les enfants vont jouer des petits pirates qui vont embarquer au départ à bord du navire du capitaine Lanterne. Son navire s'appelle Lointain. C'est un bateau mythique tout autant que son capitaine. Et ils vont en fait mener une vie de pirate. Ils vont aller trouver des trésors, ils vont aller redresser des torts aussi. Tout ça, ça rime. Parce qu'effectivement, c'est pas des méchants pirates. C'était pas du tout. Il y a des méchants pirates dans cet univers, mais ce sont avant tout des gentils pirates qui vont essayer de faire des bonnes choses autour d'eux, d'aider leurs amis, d'aider d'autres capitaines, d'aider des gens dans les ports. Alors ça peut être des marins, des vieilles dames qui ont perdu quelque chose. Après, ils vont aussi ils peuvent explorer des temples oubliés. Ils peuvent, voilà, pour les amateurs de jeux de piraterie, que ce soit en jeu vidéo, que ce soit d'aventure de pirates, c'est vraiment, voilà, c'est pour vous. C'est pour vous et vos enfants. Et les parties, c'est pareil, c'est des parties de 45 minutes, une heure, avec des règles qui se jouent au dé à 8 faces, très simple. Avec juste trois caractéristiques, Coco, Musclo et Bricolo, voilà, tout simplement. Où on va simplement lancer un D8 et rajouter sa caractéristique, donc Coco pour la tête, Bricolo pour tout ce qu'on fait de ses mains et sa débrouillardise, et Musclo pour montrer ses biceps. Et le système de jeu, voilà, c'est le plus simple du monde. Et ils peuvent utiliser aussi des objets, ils peuvent donner des bonus, un bandeau de pirate, une amulette, un sabre, etc. Et pareil, par contre, je parle de ça, mais c'est pas un jeu violent. Il peut y avoir des petits affrontements, des petites choses, mais il n'y a pas de. On est un jeu pour enfants, on n'est pas dans un jeu pour les grands où il y a du sang, des pleurs et des larmes. S'ils perdent un combat. Ils passent ce qu'on appelle un sale quart d'heure. Ils peuvent très bien se retrouver. Tu fais une petite ellipse et ils se retrouvent sur une barque, attachés sur une barque en train de dériver au loin, quoi. On n'est pas. C'est vraiment un jeu aussi pareil, tout comme Petit Détective de Monstre et Incroyable Détective de Monstre. Un jeu tout en douceur, mais là, on va jouer des pirates. Et les possibilités, c'est pareil, c'est infini. C'est. De l'exploration, il y a aussi des intrigues, et puis au fur et à mesure de leur voyage, ils vont rencontrer aussi beaucoup de gens, et comme ils vont repasser par certaines îles, ils vont les rencontrer à nouveau, donc il va y avoir des évolutions dans les relations avec les personnages. Là aussi, tu as une dimension que vraiment bac à sable, en fait, sur tout cet univers, et d'aventure en aventure, en fait, sans s'en rendre compte, on va créer des campagnes. D'ailleurs, les aventures ne s'appellent pas des aventures, ça s'appelle des traversées. Et dans Petit Pirate, dans le livre de base, il y a déjà 10 traversées qui se suivent, en fait. Réellement, qui se suivent, ça fait déjà une vraie campagne. Et il y a aussi un recueil de traversées qui, pour l'instant, n'est qu'en PDF, qu'on aimerait sortir en version physique, où là, il y en a 11, où il y a des scénarios décrochés, des trilogies, et une campagne un peu plus touffue, où il y a vraiment des arcs narratifs, des fils conducteurs bien présents pour jouer comme les grands. Donc, si vous aimez les pirates, si vous aimez la grande aventure, sentir le sel marin, l'odeur du poisson frais, et puis faire comme des pirates, ce jeu, il est fait pour vous. Parents, enfants, de France, de Navarre, du monde entier, Petit Pirate vous attend.
Ça allait être ma question complémentaire. C'est un jeu qui peut se jouer principalement entre enfants, ou est-ce qu'un adulte a besoin d'accompagner un adulte?
Alors, au début, moi je dis quand on fait les premières parties, c'est toujours bien que ça soit un plus grand, un adolescent ou un adulte qui joue. Mais un enfant qui a déjà joué au jeu de rôle, qui a 9-10 ans, il peut le prendre en main sans problème. Voilà. Mais j'ai connu des petits MJ de 8-9 ans qui l'ont pris en main, ça n'a pas posé de problème. Après, des fois, c'est bien d'avoir un grand qui est à côté au début, mais après, c'est, oui, ça va très vite, quoi. C'est facilement, tu peux le prendre facilement en main quand t'as compris comment ça fonctionnait, c'est très très facile, quoi. Ça y est, je me fais aucun souci là-dessus et les retours sont unanimes. Les enfants après se lancent. Et ça, c'est beau aussi quand tu as les retours des parents qui disent voilà, il a fait la première partie et je t'ai fait une retranscription de la partie.
Ah, ça, et c'est là, cool.
Ah ouais, c'est, on a reçu d'ailleurs récemment pour les Petit Détective et puis pour Petit Pirate. Et franchement, tu dis voilà, ouais, c'est bon. Quand nous trépasserons, nous vieux rôlistes, nous sommes sûrs que. Voilà, il y aura la relève et que le jeu de rôle a un bel avenir devant lui, quoi.
Oui, et puis j'imagine aussi, je suis content, j'ai bien fait mon boulot d'éditeur, j'ai permis à des gens de jouer à un jeu.
Oui, j'ai bien fait mon boulot d'éditeur, surtout de loutre, parce que voilà. Je suis une loutre dans un costume d'humain, il faut le savoir, ça a été dit par un collègue québécois sur YouTube il n'y a pas longtemps. Vous dévoilez mon secret. Donc oui, ça me fait super. Oui, c'est vrai. Ça me fait super plaisir, moi, de voir ça, parce que je me dis, voilà, t'as fait un travail, mais tu l'as pas fait pour rien. Tu permets à des gens de jouer, de passer un bon moment, de partager quelque chose, de partager du rêve, de l'imagination et un moment de rire, de partage, quoi. C'est pour moi, c'est vraiment la. Alors tout le monde va me dire oui mais non mais en fait t'as aussi envie que ça marche. Oui, bien sûr j'ai envie que ça marche, mais c'est encore plus gratifiant quand ça marche et que les gens sont contents, tu vois, ils te font un retour super positif et toi t'es là, tu dis bon bah j'ai pas bossé pour rien, j'ai mis le cœur et ça s'est transmis. Et ça quand on reçoit ça à la maison, on fait ouais, trop la fête et on est vraiment heureux, quoi. Et on prend le temps de répondre aussi aux gens, attention je vous le dis tout de suite, et si on vous ne répond pas, vous êtes en droit de nous embêter. On ne l'a pas
évoqué, mais sauf erreur de ma part, les jeux pour enfants, ils ont la possibilité de s'investir aussi dans le jeu en lui-même. Sur Petit Détective de Monstres, on pouvait créer ces monstres aussi et vous les envoyer.
Oui, tout à fait. On peut créer ces monstres. On a d'ailleurs à disposition, vous pouvez nous les envoyer, hein, si vous êtes quelqu'un qui nous entend. Ah, des monstres, vous les envoyez, on a une section entrepôt des monstres. Normalement, il y a toujours une fiche vierge à télécharger.
À compléter.
Au pire, oui, à compléter. Au pire, nous, on peut remettre en page quand il y a un souci, parce que par exemple, des fois, quand on n'a pas de scanner et que c'est compliqué de renvoyer, on peut s'en charger aussi de remettre tout ça en forme. Et oui, on peut faire. Et pour Petit Pirate, justement, là, on n'a pas eu trop de retours, mais il faut qu'on relance ça, de toute façon, ça va se faire bientôt. On en a eu quelques-uns, on proposait aux gens de mettre les feuilles de leur équipage, les personnages prêts à jouer, de raconter leurs aventures, voilà. Et donc ça, nous, on est très friands. Nous, ce qu'on veut chez Alout, c'est un esprit de communauté, c'est pour, comme on l'a pour Stalker.
Oui, c'est vrai, tu l'évoquais.
Voilà, pour Petit Détective, pour là bientôt on aura pour Incroyable Détective de monstres, et pour Petit Pirate aussi actuellement, nous c'est l'esprit de communauté, c'est-à-dire que jouer, partager avec nous, mais aussi surtout partager avec les autres. Parce que vous êtes très nombreux à jouer à nos jeux et partager vos expériences. Et ce qui est bien, c'est que ça, comme ça, donne des idées. Des fois, quand il y en a, on nous envoie des scénarios, les autres peuvent le jouer. Donc un scénario joué par des groupes différents un peu partout, et ça c'est enfin nous on trouve ça génial, quoi. C'est ça qui est bien dans le jeu de rôle, t'as vraiment un esprit de communauté autour des jeux qui peut se créer, et le public porte vraiment, les joueurs portent, les joueuses portent les jeux, quoi. Le truc que tu le vois aussi dans le jeu vidéo, mais en dehors du monde du jeu en général, tu vois pas forcément ça de manière Enfin, moi, je trouve, hein, c'est mon avis tout à fait personnel, je trouve qu'on a cette chance dans le monde du jeu d'avoir ça, des gens qui jouent et qui partagent et qui portent, de par leur expérience, le jeu auquel ils jouent, quoi.
Ça permet d'enchaîner de manière assez fluide sur un jeu qui va porter ces valeurs-là de création et d'enrichissement.
mais qui va être un petit peu différent, puisque c'est pas un jeu qu'on va partager avec d'autres. C'est Chronique d'un vampire millénaire. Ouais. C'est un jeu solo. Est-ce que tu peux nous parler de, on va pas dire cette anomalie, mais plutôt cette étrangeté, un jeu de rôle solo?
Ah, encore quelqu'un qui crie à l'hérésie?
Non, absolument pas.
Non, non, je plaisante. Non, non, en fait, c'est vrai que quand tu dis JDR solo, tu dis, ah, oh, c'est quoi? C'est du livre de 11 numéros?
Alors moi, pas je dirais... forcément.
Pas tout à fait. Mais en fait, ça répond à une interrogation, je ne sais pas si toi tu l'as eu, mais... Moi, quand j'étais gamin, avant 89, j'avais commencé en 87 par les livres dont vous êtes le héros. Et très vite, je me suis dit, ah, c'est bien, il y a des paragraphes et tout, c'est cool. Mais il y a des fois, j'aimerais réécrire l'histoire. Des fois, je me dis, mais pourquoi ils me proposent ça? Je pourrais faire simplement ça et c'est plié. Tu vois, j'aimerais pouvoir écrire ma propre histoire en plus de ce que je vois. Et en fait, dans le JDR solo qu'est Chronique d'un vampire millénaire, justement, là, tu as des paragraphes qu'on appelle des amorces qui vont te donner des pistes de réflexion pour ensuite écrire et tu vas y répondre et tu vas écrire au fur et à mesure la chronique de ton vampire. Donc, tu as une partie qui était suggérée, qui te sert de base pour écrire ta chronique et ensuite, c'est toi qui vas écrire ta propre histoire. Et au fur et à mesure des amorces, dans lesquels tu te déplaces en fait simplement en lançant un des 10 et un des 6. Tu soustrais le résultat du D6 de celui du D10, et donc tu peux avancer ou reculer, et à chaque fois que tu tombes sur une amorce, tu vas répondre. Et tout ça, ça peut se passer sur quelques mois, quelques années, un siècle ou deux, tu vois. Et tu vas écrire l'histoire de ton vampire sur, en général... ça peut aller, c'est 1000 ans, mais ça peut être un peu moins, ça peut être beaucoup plus. Et donc, tu vas écrire au fur et à mesure, passer d'amorce en amorce. Et dans chaque amorce, en fait, tu as plusieurs entrées. C'est-à-dire que tu vas me dire oui, parce qu'à un moment donné, on va retomber sur la même amorce. Non. Dans chaque amorce, il y a une entrée, deux entrées, trois entrées. Et à chaque fois, bah, quand si tu retombes sur la première, bah, tu passes directement à la seconde. Au fur et à mesure. Et comme ça, tu peux jouer très, très, très longtemps. Tu sais, ce qui est bien, c'est que ce jeu, donc non seulement ça va booster ta créativité, ça va t'amener à créer ta propre histoire de vampire avec une grande liberté, parce que libre à toi de jouer avec l'histoire. Tu peux, si t'as pas envie, si c'est pas notre, en général tu t'inscris au départ souvent dans l'histoire de telle qu'on l'a connue, mais si t'as envie de la changer, tu la changes. Le but, c'est que tu écrives ta chronique qui te fasse plaisir. Et ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de tout faire d'un coup. J'en connais beaucoup qui ont joué à la version originale, qui font tous les jours, je me fais une amorce. Tu vois, okay. Une histoire de... comment ça ? Voilà. Et c'est un système où, en fait, tu as plusieurs traits. Tu as des compétences, des ressources, entre autres. Et tu as des personnages que tu vas rencontrer qui sont en fait les PNJ. Donc, en fait, on peut reprendre. Donc, je disais qu'il y avait des compétences, des ressources, des personnages, et il y a aussi des marques. Des marques vampiriques, des choses un peu étranges, genre tu as des rats dans l'abdomen, tu as des moignons d'ailes, etc., des choses qui font de toi un être vraiment à part. Et tu as surtout ce qu'on appelle des souvenirs. Voilà. En fait, au fur et à mesure, tu vas me dire, mais attends, sur 1000 ans, on ne peut pas tout retenir. On oublie des choses. C'est pour ça que, en fait, tu as un nombre de souvenirs limité. Et en fait, à chaque fois que tu vas répondre à... En fait, par exemple, tu vas arriver sur une amorce. Je vais prendre, par exemple, la première amorce. Une amorce, là, l'amorce 9. Vous développez un système pour vous nourrir. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui arrive à ceux... qui en meurt, créer une compétence qui reflète cela. Alors là, par exemple, tu vas devoir répondre par ce qu'on appelle, ce que tu vas écrire, ça va s'appeler une expérience. L'expérience, tu vas devoir la mettre dans un de tes emplacements de souvenirs qui sont limités. D'accord ? Il y en a cinq. Et après, quatre ou cinq. Et en fait, après, tu as le droit à trois expériences. Par souvenir. Et mais au fur et à mesure, ben, quand tu n'as plus de place ou que tu n'arrives pas à faire des liens. Enfin, quand tu n'as plus de place, au bout d'un moment, tu es obligé de virer un souvenir pour en ajouter un autre. C'est comme ça que, en fait, entre le début de ta chronique et la fin de ta chronique,
ton personnage est différent.
Est différent, il y a des choses que tu as oubliées. Alors, des fois, il y a des amorces qui permettent de te faire revenir des souvenirs un peu en façon gratuite, quoi. C'est le petit cadeau bonus. Et après, par contre, tu peux aussi avoir un journal intime, un jour, simplement un journal. Et ce journal, tu peux avoir un peu plus de souvenirs, mais tu n'as le droit qu'à un journal. Et ce journal, par contre, tu peux réellement dans le jeu le perdre.
Eh oui.
Et en fait, il y a aussi un truc assez vicieux. C'est-à-dire que très régulièrement, tu vas avoir des compétences. On va te dire, vous gagnez une compétence. Des fois, on va te dire laquelle c'est. Par exemple, je fais pleurer les enfants. C'est très simple. Et parfois, on va te demander de cocher des compétences. Ça veut dire que réellement, comment te dire, quand tu vas cocher une compétence, tu vas avoir réalisé la chose. Au début, tu l'es en puissance et après, tu le deviens en acte. Et par exemple, si tu as la compétence, par exemple, rage destructrice, par exemple, c'est un exemple, et qu'on te demande pour une amorce où tu vas décrire une chose, de cocher une compétence, tu vas devoir introduire le thème de ta compétence dans ton expérience. Donc, t'imagines que si c'était un problème à régler, qui aurait pu se régler autrement que par un bain de sang, et que tu n'as que cette compétence à cocher, donc tu vas écrire ton expérience de manière à ce qu'en fait ça tourne super mal. Tu vois ?
Ok, je vois bien le.
Ça peut paraître un peu compliqué, mais non, en fait, c'est très fluide. Ça a été c'est testé par des centaines de milliers de joueurs. Et en fait, c'est un jeu comme ça. Tu écris quand t'as une amorce, tu écris une expérience que tu vas caler dans un souvenir. Et cette expérience, tu vas être influencé par les compétences que tu coches. Mais aussi, il n'y a pas que les compétences, il y a des ressources. Des ressources, tu vas en gagner, tu vas en perdre. Alors, une ressource, ça peut être. Alors, c'est des ressources, attention, utiles au jeu. Si tu as besoin que ton vampire flamand du XVIe siècle ait besoin d'un fleuret, il n'y a rien qui va. Ça n'apporte pas grand chose à l'histoire. Toi, tu es content, tu as ta belle chemise à jabot et tu as ton parapierre. Mais ça ne va pas plus loin. Par contre, avoir une caverne secrète, un manoir, un serviteur bossu ou un, comment dire, un artefact étrange et mystique, ça peut être des ressources. Tu vois, et en fait, au fur et à mesure, tu as des amorces qui impliquent que tu perds une ressource. Donc si par exemple tu t'étais amouraché d'un gentilhomme et que au XVIIe siècle et que finalement imaginons qu'il y a une histoire qui fait que vous vous séparez et que lui décide de te, dans le cadre de la séparation, décide de t'arracher tes biens, tu vas dire voilà, je perds une ressource, je perds mon manoir du Liechtenstein et voilà. Et dans ces cas-là, tu vois, tu vas introduire ça dans ton expérience que tu vas écrire.
Ok.
Tu vois, c'est plus facile à comprendre peut-être avec les ressources qu'avec les compétences, mais c'est le même système. Par contre, le jour où tu n'as plus, alors le jeu se finit quand tu arrives à ce, donc quand tu dis clairement que c'est la fin, soit quand tu n'as plus de ressources ou de compétences à cocher. Et quand tu n'as plus, quand on demande de cocher une compétence, mais que tu n'en as plus, mais que tu as encore des ressources, tu peux intervertir. Mais une fois que tu n'as plus rien, c'est terminé.
C'est fini.
Voilà, donc en fait, il y a quand même un savant mélange de comment je vais gérer mes trucs. Et parfois, tu as plusieurs choix. Ils te disent gagner ou perdre, gagner une ressource ou une compétence. Et après l'inverse, parce que donc faut bien gérer ça, parce que parfois tu peux tomber sur plusieurs amorces où tu vas te faire laminer tes compétences toutes cochées les unes après les autres, et après ça peut être très vite
très courte, quoi.
Voilà, et après tu vas me dire oui, mais une fois qu'on a fini, il y a à peu près il y a 80 amorces en gros, donc 79, 80, tu dis, mais quand on a fini, bah alors faut savoir que la plupart des gens recommencent plusieurs fois la première série d'amorces pour faire des choses différentes, et qu'après, il y a encore plus d'amorces qui ont été créées par des auteurs que Tim Hutchings, donc l'auteur du, et éditeur de Chronique d'un vampire millénaire en VO, a invité, et chacun explore d'autres thèmes, d'autres ambiances. Alors ça peut comment, alors qu'est-ce qu'on a d'intérêt, qu'est-ce qu'on a de super sympa. Alors t'as, bien sûr, t'as une amorce, t'as des amorces de début et de fin qui sont alternatives. Tu as par exemple des choses qui sont très basées sur les sentiments, le romantisme. Tu as des choses un peu étranges. Où tu te prends pour un oiseau, où tu es dans une famille d'ours aussi. Enfin, il y a pas mal, je ne vais pas tout dévoiler quand même. Mais après, tu es aussi sur les objets, sur des trésors, sur le corps, sur les lieux étranges, des légendes, les marques et les bizarreries. Donc, des choses très. Des amorces qui sont très axées aussi sur les chasseurs, tu vois. Donc là, ça commence à devenir tendu. Et au fur et à mesure, donc tu peux, c'est presque illimité en fait.
C'est un jeu. On joue forcément dans notre monde. On pourrait imaginer faire un vampire en Medfan ou dans l'espace.
Tu pourrais tout à fait. C'est juste, tu les prompts, tu peux les adapter comme tu veux, quoi. Je dis les prompts, c'est le mot anglais sur lequel on a beaucoup travaillé pour dire, ensuite c'est amorce qui correspond le mieux, parce que ça amorce l'idée. Tu peux clairement mettre tout ce que tu veux dedans, quoi. Tu peux clairement dire, voilà, je peux jouer un vampire du futur. Mais alors dans ce cas-là, au départ, quand tu vas créer ton vampire, tu peux très bien dire que ton vampire, il est né au 15e siècle, mais qu'il s'est réveillé en 2314. Le 14 mars à 13h30 et 14 secondes, tu peux très bien le faire, c'est pas gênant. Avec la création de personnages, où au début tu as quelques souvenirs des personnages que tu connais, etc., tu peux le faire. Et d'ailleurs, je parle des personnages parce que tu vois, j'ai encore oublié un truc. Les personnages, c'est très important, ce sont des personnages que tu vas créer qui ont vraiment une importance pour ton vampire. Et eux aussi, tu peux les perdre.
Ouais, il y a des enjeux qui sont mis fortement quand même.
Tu peux les perdre à cause d'autres, parce que des fois, c'est eux qui payent le prix de ce que tu fais, le prix du temps qui passe. Et parfois, c'est même toi qui les tues. Alors attention, c'est quand même un jeu pour... et à la fois, c'est marrant, parce qu'on l'a gardé les deux dans le livre. C'est pour joueur mature, mais à un moment donné dans le livre, il me dit aussi pour adulte mature. Parce qu'il y a quand même... voilà, pour te dire... Et c'est aussi, enfin, c'est pour ça que c'est pas un jeu pour les petits hauts, comme on dit chez moi. c'est un jeu où on peut rencontrer la mort, la maladie, la prédation. Le personnage peut être blessé, être victime, frappé, tué. Et en fait, tu peux faire la même chose aux gens. Que ça soit à des personnes âgées, des enfants, des êtres chers, des gens marginalisés ou sur soi-même. Tu peux avoir des choses sur la mutilation, l'automutilation. Donc attention, ça, c'est en fait le niveau de drame et de, comment dire, d'ambiance sombre que tu veux dans tes chroniques, c'est à la pure discrétion, même si, alors, il y a des amorces quand même qui sont assez sombres, mais le niveau que tu veux mettre dedans, ça reste quand même toi au travers de ton écriture, de ce que tu vas mettre dedans. Donc t'as des gens sur le même thème, il y en a qui vont aller carrément dans le trash, dans le gore, et d'autres qui vont être plus poétiques, tu vois, ou plus
sujet. Ça nécessite quand même une connaissance de soi.
Voilà, et justement, moi je l'ai fait à plusieurs reprises, et des fois tu te dis, mais en fait, ouais, mais ce truc, c'est juste une folie, parce que il y a des choses de toi qui ressortent forcément, des choses, des fois très très profondes. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, il y a justement un outil de sécurité émotionnelle. Donc c'est une petite fleur, en fait, avec différentes couleurs, et donc jaune, enfin vert, jaune, rouge, et au fur et à mesure sur cette fleur, donc il faudrait que je la mette l'image sur le site d'ailleurs, ça serait pas mal, où on voit en fait des petits papiers qui te posent des questions. Est-ce que j'ai le souffle coupé, est-ce que à ce moment-là j'étais absorbé, je ne peux pas écrire assez vite parce qu'on est pris dans le flot de ce qu'on fait. Je sens des tensions dans mon corps. Et tout ça, en fait, au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on ressent, au fur et à mesure des amorces, on va faire des petits points. En partant, on va faire des petits points sur la tout autour de la fleur. Et on va les relier, on va voir les fluctuations. Tu sais, quand tu vas passer d'une couleur à l'autre, où tu vas te rendre compte que. Et il y a des moments où ils disent, par exemple, il y en a un, c'est où il faut, tu dis, bon, là, il faut que je pose le stylo. C'est trop fort pour moi. Parce qu'en fait, effectivement, ce jeu, parce que répondant à des amorces, tu mets forcément des parties de toi-même, et puis t'as des choix moraux qui sont très 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 intenses par moment.
Ouais, ça peut secouer. Donc, ouais.
Bah, tu dois choisir entre tuer un être aimé pour pour préserver autre chose, etc. Enfin, c'est vraiment des cas de conscience. Et comme c'est un jeu de journal intime que tu es dedans. Que tu fais pas juste répondre simplement, genre, j'ai envie de vivre une belle aventure, non. Ça devient très vite personnel, en fait. Ça devient. Donc à toi de savoir où tu veux te situer, si tu veux être détaché ou pas détaché. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme en jeu de retour à la table, c'est première ou troisième personne.
Ouais, quel est l'investissement que tu veux mettre dans ce voilà. jeu en matière
Mais si tu t'investis et que tu te mets dedans et que tu laisses le truc couler, tu peux avoir. C'est, le but, c'est de ressentir des émotions. C'est pas juste d'écrire un journal, dire là, c'est bien sympa, je réponds à des trucs. Non, c'est d'être l'acteur principal de cette chronique, d'être vraiment au centre, tu vois. Et c'est moi, j'ai été super surpris, quoi. Je l'ai début, je fais ouais, bon, on va voir, restons neutres. Et puis, quand j'ai découvert le truc, Susan Vampire, c'est juste. Voilà, moi ça m'a décapé, ça, voilà. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que moi j'avais vu le truc, et puis on en a parlé en fait avec Neoludis, qui est notre distributeur pour les boutiques. Et Jérôme m'a dit, Jean-Miozo me dit, ah mais ce jeu-là, il pourrait être super sympa. Et moi j'avais vu le truc et tout. Et en fait, de but en blanc, ça s'est fait comme ça en fait. Au début, moi, j'hésitais, mais je trouvais le truc super bien. Et puis, en fait, quand ils m'ont dit non, mais si, c'est super et tout, ben voilà, il y a eu un. Et donc là, il y avait une vraie collaboration avec le distributeur en plus. Donc voilà, et je suis content que ça ait abouti. Là, le livre, il arrive donc normalement dans 2 jours. C'est pas de retard. Et on a hâte de voir ce que ça donne. Alors d'ailleurs, tout bien, c'est que. Dans la version originale, il y avait une magnifique à la couverture, à l'intérieur, quand on ouvre, c'est marqué en gros Sozonia All Vampire en belle calligraphie. C'est fait par l'auteur. Il faut savoir que l'auteur est prof d'art, il est artiste lui-même, et que dans le livre, il y a énormément de collages qui ont été faits, ensuite scannés. Il y a plein d'articles de presse, etc. Et au début du livre, il y a donc ça qui est écrit. Et nous, il nous a refait une version à la française avec marqué « Chronique d'un vampire millénaire » avec un joli cercueil.
Qu'on peut retrouver sur le site si vous voulez aller le voir.
Voilà. Et puis je pense que je vais le reposter un petit peu sur les réseaux que les gens voient un peu ce que ça donne. Et alors ne vous étonnez pas, on a l'impression qu'il y a plein d'articles de presse et tout, mais oui, non, c'est collé. Il y a des textes que vous ne voyez pas dans le livre. C'est normal. C'est fait exprès. Il y a même un texte en double. C'est normal. C'est fait exprès. Voilà. C'est dans ce livre, c'est vraiment une œuvre d'art, quoi. Il y a des petits rébus à trouver, des choses à trouver. Par exemple, la partie qu'est-ce que le jeu de rôle, ben, à vous de me dire qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle. Je laisse la surprise aux auditeurs, auditrices. Voilà. C'est un livre vraiment artistique, en plus.
Eh ben,
et on avait, voilà, belle couverture rigide, ça va être beau, regardez, dorure, vous allez voir.
Ouais, un vrai placement pour l'avenir. Très très envie, ça c'est clair. Voilà. Juste une question qu'on n'a pas abordée, et à mon avis la réponse peut être très fluctuante, c'est des parties de combien de temps?
Alors, c'est dans le livre, pour la partie solo, parce que j'ai oublié de dire, il y a deux possibilités de pouvoir jouer en groupe, mais il dit testez-le. Ce n'est que deux propositions à vous de tester pour jouer à plusieurs, mais seul, honnêtement, ça peut aller. Tu peux jouer en jeu rapide, donc tu fais des réponses assez sommaires, si tu veux. Et là, ça peut prendre quelques heures.
Ok.
Mais par contre, si vraiment tu veux la faire en version vraiment journal intime, où là, tu veux vraiment écrire les choses, alors là, tu peux prendre des jours, tu peux prendre des semaines, autant de temps que tu veux. Moi, j'en connais, ils l'ont fait en deux semaines, d'autant ou trois mois avant de le recommencer. Tu sais que tu peux le faire tous les soirs avant de te coucher. Tu dis c'est mon moment. Je me fais une ou deux amorces. Je vois, et en plus des fois on complète, etc. Alors ce qui est marrant dans ce bouquin, c'est que pour les premières amorces, tu peux écrire sur le livre si tu te sens assez courageux, comme le dit l'auteur, ou assez fou, pour le faire. On y a des espaces pour le faire, mais très vite, en fait, tous les gens que je connais qui ont déjà testé la VO, en fait, ils sont allés s'acheter un vrai carnet pour écrire dedans, un beau carnet pour écrire dedans, et ils en ont comme ça un, deux, trois, quatre. Et c'est ça qui est magique en fait avec Chronique d'un vampire millénaire, c'est qu'en fait tu te prends à retrouver le plaisir d'écrire tout en faisant un jeu de rôle solo, où là vraiment, pourquoi jeu de rôle solo, c'est pas juste du livre d'autres héros, là tu incarnes ton personnage et tu le fais vivre, tu le fais respirer, si on peut dire qu'un vampire respire, et tu t'impliques quoi. C'est pas juste je vais au paragraphe 63.
Il y a un investissement qui est nécessaire.
Ouais. Il y a un investissement, mais c'est pas forcé. En fait, les amorces vont te porter au fur et à mesure. Et il te dit par contre, quand si des fois vous savez pas trop comment faire ou vous bloquez, c'est pas grave. Passez à la suite. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions qu'il y a dans une amorce. Tu vois, t'as pas l'obligation de tout répondre. Si une seule ou deux vous tentent, faites-le. Le but, c'est que vous écriviez votre chronique, que vous fassiez plaisir, que vous viviez une expérience intense dans laquelle vous ressortiez quelque chose, quoi. Ressentiez et ressortiez quelque chose aussi. Donc, c'est voilà. Il y a une certaine quand même liberté. C'est pas non plus fort gravé dans le marbre. Voilà. C'est le tout, c'est que. Enfin, le but de l'auteur, c'est aussi que quand on prend, même si l'expérience peut parfois être très intense, il faut que ça reste un plaisir. Il faut qu'on trouve son rythme, on trouve son souffle au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, quoi. Que le but, c'est de sortir de là en se sentant fait plaisir, en ayant écrit, en ayant vibré, en ayant imaginé. C'est vraiment voilà. C'est le pari est complètement réussi. D'ailleurs, il a reçu plusieurs prix, dont deux Innis. Donc c'est pas rien. Je pense que dans cette veine, il y aura des petites nouvelles dans peu de temps. Normalement, d'ici l'été, il y aura des nouvelles. Il y a des petites surprises dans ce domaine-là. Mais je ne peux en dire plus pour l'instant.
À surveiller. Pour conclure sur Chronique d'un vampire millénaire, le même exercice auquel tu t'es prêté sur Incroyable détective de monstres. Si tu devais convaincre quelqu'un d'acheter Chronique d'un vampire millénaire en quelques mots.
Alors, voilà. Ça va être très simple. Alors, je commence. Tu aimes jouer seul. Tu aimes écrire de grandes épopées. Tu veux savoir ce qu'est la non-vie pendant 1000 ans. Alors, Chronique d'un vampire millénaire est fait pour toi. Un jeu de rôle solo, multiprimé, où tu vas pouvoir chroniquer la vie, ou plutôt la non-vie de ton vampire, tout au long de fabuleuses amorces. Et vraiment ressentir au plus profond de toi toutes les expériences de ton vampire. Si tu sens l'âme d'un vampire, que tu as l'écrou, que tu aimes le A+, Chronique d'un vampire millénaire est fait pour toi.
Parfait.
Ça, c'est le bruit de la canette de A+ qu'on ouvre. c'est les canettes rouges avec une bande blanche, mais c'est marqué A+, ou au moins, ça dépend. Ça dépend du goût que tu préfères.
voilà de retour sur le 101.5 de Radio G. C'était Christophe Desnouveaux qui nous parlait d'incroyables détectives, de monstres, des autres productions qu'il a pu avoir. Sachez qu'au moment où vous allez entendre cette chronique, le financement participatif d'incroyables détectives, de monstres est toujours en cours. C'est un projet qui est d'ores et déjà financé. Il vous reste à peu près 18 jours au moment où vous écoutez cette petite chronique. Soutenez la loutre horroriste, c'est du beau boulot. J'ai eu Petit Détective de Monstre entre les mains, j'aurais probablement Incroyable Détective de Monstre. J'ai envie de vous faire partager quelque chose avec Chronique d'un Vampire Millénaire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir. N'hésitez pas à aller sur le site directement ou direction Ulule pour financer ce projet. En attendant, on se retrouve dans 15 jours pour parcourir et arpenter ensemble les voies du scénarium.
Ensemble à la conquête du Graal, celui du savoir sous toutes ses formes. Et pour ça, on a besoin de vous. Posez vos questions, toutes vos questions, des plus existentielles aux plus décalées, des plus sérieuses aux plus drôles. Nous y répondons en une minute chrono dans Question Graal. À découvrir dans les émissions Topette et CMA, mais aussi en avant-première dans les podcasts plus de radio-g.fr. Pour poser vos questions, par écrit ou en message vocal, allez sur le site radio-g.fr, rubrique Contact. Vous pouvez aussi découvrir le Graal en vidéo sur les comptes Questions Graal d'Instagram et Facebook. Alors, à vos questions sur radio-g.fr.